Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission Esprit du livre qui chaque mois vous propose quelques livres de parution récente ou moins récente mais qui concernent directement et indirectement la foi chrétienne. À mes côtés, le père Roger Willem qui commence par vous présenter un premier ouvrage de Marion Muller-Collard, L'autre Dieu. Avec sous-titre « La plainte, la menace et la grâce ». Il est paru à la Petite Bibliothèque de spiritualité chez Labor et Fides, tout récemment puisque c'est en mars 2015.
Voici un très beau texte mêlant le récit personnel, la méditation et une relecture spirituelle de l'étonnant livre de Job. L'auteur invite le lecteur à considérer la foi comme une audace. Oui, cette femme a une longue expérience de pasteur en milieu hospitalier, où elle rencontre beaucoup de souffrances, de désespoir. Elle retient la plainte existentielle de patients qui sont brusquement privés de repères d'un Dieu avec lequel ils croyaient pourtant avoir passé un contrat, une alliance. Marion Muller-Collard, elle-même, au chevet d'un de ses fils gravement malade, a dû relire sa propre expérience de la menace de cette maladie, la menace de la mort. Alors, elle s'est mise en quête d'une foi qui ne soit plus l'assurance illusoire d'être mis à l'abri du sort et des aléas de la vie. En cheminant avec Job, dont elle est d'ailleurs spécialiste, l'auteur interroge la possibilité de se délester de la culpabilité et de la pensée magique pour se risquer à une confiance sans filet, celle de l'autre Dieu. Au-delà de la plainte et de la menace, Marion Muller-Collard fait miroiter la grâce dans ce texte très incarné pour tout lecteur en recherche d'une pensée théologique originale, accessible et exigeante. Marion Muller-Collard est théologienne protestante. Après avoir été aumônier d'hôpital, elle s'est consacrée totalement à la pratique de l'écrit. Elle assure une chronique dans la rubrique spirituelle du journal très apprécié, Réforme. Voici quelques extraits de ce livre. Dans le prologue, elle écrit ceci. C'est malheureux, mais il n'existe pas de formation universitaire qui prépare à l'impuissance. J'en ai pourtant fait mon métier, en plongeant quelques années, corps et âme, dans ce pays inhospitalier qu'est la maladie et la mort qui s'ensuit parfois. Je aimais pouvoir ressortir de mes étagères un vieux cours de fac, un livre magique, un grimoire, quelques aphorismes qui auraient pu faire recette. Oui, elle constate que la grande vieillesse est souvent une disgrâce qui s'étire nonchalamment jusqu'à la mort sans se presser. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on lui reproche. Si l'on a réussi l'exploit de rallonger la vie, ce n'est décidément pas par son bon bout. On en vient à gaver d'existence des hommes et des femmes qui ont atteint depuis plusieurs années leur seuil de satiété, et on n'imagine pas la peine qu'il y a à vivre sans appétit. La très ancienne bénédiction biblique, nous dit-elle, qui reposa finalement sur Job après bien des tourments, mourir rassasié de jours, à virer au supplice. Alors, il faudrait pouvoir mourir en sortant de table, après avoir rendu grâce, tout simplement. Au lieu de quoi, on nous ligote à notre chaise, et nous voilà punis, condamnés à rester à la table d'un interminable repas. si bon qu'il fût, on est écœuré à la seule vue des restes. Ce livre nous invite tout simplement à partir de l'expérience de l'écoute des souffrants, de ce silence partagé, de l'accueil mutuel, s'ouvrir à cette présence discrète de ce Dieu qui se montre toujours d'une manière magnanime, dans une discrétion qui respecte chaque personne. Mais c'est le Dieu qui tient parole et qui écoute. C'est le Dieu qui permet de rencontrer l'autre dans ce qu'il a de plus humain, dans sa sensibilité, dans sa déchirure, dans son mal. Et dans ce mal, il y a cette présence, c'est l'autre Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu de la compassion qui se rend si proche de tout être humain.
Merci, Père Willem. Il nous parlait donc de L'autre Dieu, un livre de Marion Muller-Collard. L'autre Dieu avec le sous-titre La plainte, la menace et la grâce. Il est paru aux éditions Labor et Fides en mars 2015. Je vous présente à mon tour un livre dont la Bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition. Un livre pas tout à fait récent, puisqu'il date du début de 2010, mais qui bénéficie d'un intérêt quasi perpétuel, puisqu'il nous parle de Jésus. Son titre, Jésus, la foi au risque de l'histoire. Son auteur est Pierre Prigent, éminent professeur de théologie, qui enseigna à la faculté protestante de Strasbourg, mais qui est aussi historien et grand spécialiste des origines du christianisme. L'intérêt de ce livre est justement qu'il associe une lecture historique des évangiles et une lecture croyante. Il nous montre comment déchiffrer dans les textes anciens tout ce qui permet d'accéder avec une relative certitude à l'existence réelle de Jésus, à son enseignement et à sa vie au milieu du groupe de ses disciples. L'extraordinaire érudition de l'auteur, jointe à une qualité d'écriture limpide, très simple, nous rend le Jésus de l'histoire encore plus concret, presque palpable. Nous pouvons saisir comment ce prédicateur, tout à fait original qu'était Jésus, annonce un avènement du royaume de Dieu lié à sa personne, et comment il se réclame d'une autorité divine pour apporter une nouvelle interprétation de la loi juive. Comment il a conscience d'être investi d'une mission unique, puisqu'en sa personne, Dieu exerce le jugement dernier. Non pour condamner, mais pour sauver, puisqu'il est lui-même l'incarnation de ce salut, et qu'il nous révèle l'amour de Dieu qui a souci des plus faibles, et qui appelle à une nouvelle alliance tous ceux qui auront foi en Jésus. Donc ce livre nous permet aussi de bien comprendre ce qui va heurter de front la religion rituelle dont les prêtres du temple sont les gardiens, et comment inévitablement cela conduira Jésus devant les tribunaux pour se terminer par une mise à mort. Mais après tout ce décryptage historique, Pierre Prigent, l'historien, laisse la place à Pierre Prigent, le théologien et surtout l'homme de foi. Car il a conscience que la science historique ne pourra jamais atteindre la totalité de ce qui s'est vraiment passé. Il nous fait entrer alors dans les témoignages des hommes, des évangélistes, dont une grande partie est liée à leur foi et à l'interprétation théologique des événements. Comment ce qui s'est passé vient accomplir les prophéties d'Israël? Comment la foi en la résurrection de Jésus est indispensable à la compréhension du mystère de sa crucifixion? Pourquoi la mort du Christ a un sens pour les hommes en leur ouvrant un nouvel horizon? Tous ces aspects ne peuvent bien sûr pas être prouvés historiquement, sauf peut-être par une transmission de la foi qui reste vivante et actuelle. Je vous lis quelques phrases tirées de la fin de cet ouvrage en guise de conclusion. Voici. Le culte rituel n'est plus la condition absolue qui seule permet d'approcher Dieu. Celui-ci ouvre les bras à tous ceux qui veulent venir à lui. Voilà la nouvelle alliance. Voilà comment Dieu convertit le culte et la loi, comme Jésus l'annonçait dans sa prédication et qui dévoilait la véritable finalité des commandements. Dieu assume la plus grande injustice pour révéler ce qu'est sa justice. Elle est d'abord amour. Dès lors, on ne parlera plus du jugement de Dieu, indépendamment de ce geste premier qui appelle en réponse nécessaire l'amour agissant des hommes. Dieu n'attend qu'une seule réponse à cette initiative incroyable, c'est qu'on y croit, que l'on se reconnaisse comme bénéficiaire de ce bouleversement, qu'on y voit pour toujours et pour chacun l'action présente d'un Dieu qui a voulu mourir pour montrer que la mort n'est pas la fin de tout. Voilà, je vous rappelle que Pierre Prigent est donc théologien protestant et historien, et que le titre de ce livre est « Jésus, la foi au risque de l'histoire », et que vous pouvez le trouver à présent à la bibliothèque diocésaine à Chartres, rue Saint-Aimant. Voici à présent le Père Wilhelm qui va nous présenter un deuxième ouvrage de Samuel Grzybowski, dont le titre est « Tous les chemins mènent à l'autre », paru aux éditions de l'Atelier tout au début de cette année 2015.
Oui, c'est une chronique d'un tour du monde interreligieux. Et il y a une situation qui donne la clé de compréhension de ce livre. L'auteur cite Frère Roger de Thésée. Toute recherche d'unité entre les hommes implique qu'on fasse d'abord l'unité en soi-même. Voilà. Lassé d'entendre que la planète entière est à feu et à sang, et que les croyants de diverses religions sont condamnés à s'opposer et restent toujours frileux pour se rencontrer et aller au-delà de leurs divisions, Samuel Grzybowski s'est engagé avec quatre amis, Ilan, de confession juive, Ismaël, de religion musulmane, Victor, athée, et Jocelyn, agnostique. Quatre amis, ils sont partis pour un tour du monde des initiatives interreligieuses à la rencontre de ceux qui construisent des ponts au lieu d'ériger des murs. Dans ce passionnant carnet de route, l'auteur met en lumière des initiatives pionnières. Quand des personnes de religion, de culture ou de conditions différentes inventent ensemble une société métissée, alors tous les chemins mènent à l'autre. Samuel Grzybowski a fondé en 2009 Coexister. C'est un mouvement interreligieux de jeunes qui rassemble dans une vingtaine de villes en France et en Belgique juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques et athées pour promouvoir la coexistence active au service du vivre ensemble. Ces jeunes, quand ils se rendent compte de la diversité de leur foi, de leur culture et de leur langage, consentent à accueillir un temps de silence. Un temps de silence pour méditer, chacun dans ce qu'il a comme expérience du divin, de Dieu, ou simplement d'une présence. on médite ensemble. Et c'est ça l'essentiel de ce qui fait leur engagement. Alors, je cite tout simplement un passage au terme, disons, en sorte d'épilogue, ce qu'écrit Samuel, qui reprend un peu ce qu'ils ont vécu les uns les autres entre Berlin, Sofia, l'Inde, la Chine, des pays d'Afrique, l'Amérique du Sud, les États-Unis. De ce voyage, écrit-il, je garde surtout ce que j'ai compris de moi-même. L'interreligieux et le vivre ensemble font partie de mes préoccupations depuis septembre 2007 et occupent l'intégralité de mon énergie et de mon esprit depuis janvier 2009. J'ai beau avoir compris depuis 2012 déjà que je me sentais profondément appelé à servir cette cause toute ma vie. Je crois qu'il y a tout de même autre chose. À ce sujet, j'aime beaucoup la distinction entre le trésor et les richesses. Les richesses, ce sont toutes ces choses superbes que nous accumulons, dont nous n'avons pas de raison d'avoir honte, mais qui restent tout de même accessoires. Ce sont nos souvenirs, nos constructions, nos œuvres, nos réalisations, même les plus belles et les plus grandes. La véritable liberté intérieure, celle que j'ai cherchée une année durant au travers de centaines de contextes différents, cette véritable liberté intérieure n'est totale que lorsqu'on est prêt à perdre toutes ses richesses pour ne garder que son trésor. Oui, tous les chemins mènent à l'autre et ceux de notre association, tous mènent à l'autre. Dès que l'on sort de chez soi, on s'expose, on prend le risque de croiser un autre que soi-même, une autre personne avec une autre rationalité, une autre histoire, une autre sensibilité, et il ne reste plus qu'à décider si, face à ces autres tant nombreux, nous nous arrêtons avec eux ou si nous voulons passer notre chemin. Qui est mon prochain ? Se demandait-on déjà il y a 2000 ans. Qui est votre prochain ?
Merci Père Willem, c'est un livre donc assez intéressant, impressionnant même. « Tous les chemins mènent à l'autre » de Samuel Grzybowski, paru aux éditions de l'Atelier en ce début de 2015. J'ajoute à mon tour quelques mots qui sont une suite de ma présentation précédente parce qu'il s'agit d'un deuxième livre du théologien protestant et historien Pierre Prigent. En fait, un livre qui complète sa réflexion sur Jésus et dont le titre est « Des paroles de Jésus à la Bible ». Les églises, le texte parle de ce qui s'est passé dans l'Église entre les années 100 et 250 après Jésus-Christ. Vaut mieux que je recommence, non ? J'aimerais mieux recommencer. J'ajoute à mon tour quelques mots qui sont en fait une suite de ma présentation précédente. Il s'agit d'un deuxième livre du théologien protestant et historien Pierre Prigent. En fait, un livre qui complète sa réflexion sur Jésus et dont le titre est « Des paroles de Jésus à la Bible, l'Église des années 100 à 250 ». Donc ce livre est aussi paru aux éditions Olivetan, mais à la fin de 2011. Et donc la bibliothèque diocésaine en a également fait l'acquisition tout récemment. L'intérêt de cet ouvrage est qu'il raconte les années de naissance de l'Église, en nous montrant les difficultés qui apparurent dès les origines. Comme aujourd'hui, l'enseignement de Jésus rencontra des interprétations très diverses, dont certaines furent intégrées au patrimoine de la tradition scripturaire dans la Bible et d'autres furent par contre éliminées, considérées comme incompatibles avec la foi authentique, les apocryphes. Pierre Prigent explique la formation progressive de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui en reliant cette élaboration aux nécessités de l'histoire et principalement aux choix qui s'imposèrent à cause de l'apparition de ce qu'on appelle les hérésies. On voit à quel point des débats approfondis furent toujours nécessaires et que c'est ainsi que se construit la théologie chrétienne, pas à pas, pour régler autant les problèmes internes à la communauté que les attaques venues de l'extérieur. On connaît à peu près le contexte hostile de l'Empire romain et ses persécutions, mais ce livre nous permet d'apprendre à mieux découvrir les pesanteurs du paganisme environnant et les conflits avec les Juifs au cours des deux premiers siècles, tout ce qui obligea les premiers chrétiens à préciser leur foi et à l'affirmer avec audace pour élargir la mission. Un des premiers thèmes de discussion de l'Église fut celui de la pénitence et du pardon, pour ceux qui tombèrent, et souvent à cause des persécutions d'ailleurs. Un deuxième thème de débat fut la différenciation progressive d'avec les rites et le calendrier juif. Et cela ne se fit pas en un jour, mais prit plus d'un siècle. Mais les gros problèmes apparaissent avec l'interprétation des écritures juives, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, car cela divisa non seulement juifs et chrétiens, mais encore les chrétiens eux-mêmes, jusqu'à provoquer certaines hérésies, dont l'hérésie marcionite, du nom de Marcion, qui refusa tout ce qui venait du judaïsme. Non seulement tout l'Ancien Testament, mais aussi trois des évangiles, parce qu'il leur trouvait trop d'attache avec le judaïsme, donc il ne gardait que l'évangile de Luc et à peine 10 épîtres de Paul. Donc, ces hérésies donc, furent lourdes à porter. Et un autre problème apparut encore avec l'évolution progressive vers une organisation hiérarchisée de la communauté chrétienne qui dut établir des ministères consacrés tout en essayant de lutter contre l'envahissement de phénomènes de type prophétique, c'est-à-dire des gens qui avaient des extases, des visions, qui avaient des prédications inspirées, du parler en langue. Donc il y eut des excès de charisme, pourtant admis par la tradition, mais qui demandèrent à être régulés et modérés par un clergé qui voulait restreindre et contrôler certains abus, comme une autre hérésie, l'hérésie montaniste, par exemple. Et surtout, les écrits inspirés furent de plus en plus nombreux, et pas toujours très fiables, au point qu'il fallut décider d'un canon des écritures chrétiennes, c'est-à-dire fixer une limite à ces écrits pour définir ceux qui devront servir de normes et de fondements à la foi et au culte. C'est ainsi, nous dit ce livre, qu'à partir des paroles de Jésus, se construira finalement la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bref, tout ce livre est absolument passionnant parce qu'il nous plonge dans une période très peu connue de l'histoire de l'Église et qu'il nous permet de prendre conscience que rien ne fut jamais un long fleuve tranquille et que nous pouvons donc en tirer des leçons pour aborder les problèmes d'aujourd'hui qui ne sont pas très différents. L'Église est toujours en construction et nous pouvons apprécier comment nos pères dans la foi réussir à avancer par les débats dans le respect mutuel et le plus souvent préférant la tolérance à l'exclusion. Donc je vous rappelle le titre de ce livre qui me paraît très important, « Des paroles de Jésus à la Bible, l'Église des années 100 à 250 » paru aux éditions Olivier Tan en 2011 et que vous pourrez trouver à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant. Au revoir, chers auditeurs, et à une prochaine émission.